Salut à toutes et à tous, au sommaire de ce 8e épisode, nous aurons Flashback, Shock Trooper, Final Match Tennis, Twin Bee, Okuto no Ken, Frog Bog, Engun, Jungle Hunt, Photograph Boy, et nous finirons avec Hook sur Arcade. Bienvenue sur Rétrovision. Ravi de vous retrouver sur ce dernier épisode de la saison 3, avec comme à chaque rentrée, nous vous proposons le meilleur de la saison précédente, c'est-à-dire la deuxième, ainsi que des séquences vidéo totalement inédites. Il devait y avoir un hors-série consacré à l'Amiga à la place de cet épisode 8, mais vu le travail qu'il y a à faire là-dessus, sa sortie sera tout simplement repoussée de quelques semaines. Et on commence justement avec une vidéo sur Amiga qui n'a jamais été diffusée. Il s'agit de Flashback, sorti en 1992, édité par Delfin Cinematic Software. Vous pouvez trouver le test complet de ce hit du début des années 90 dans l'épisode 7 de Rétrovision, avec sa conversion sur Sega Mega CD, qui apporte tout de même de nombreuses améliorations techniques qui ne gâchent en rien l'intérêt du jeu. Bien au contraire, cette dernière ne fait que nous immerger encore plus dans cet univers unique de science-fiction. Dernier jeu chroniqué dans ce volume 3 de Rétrovision, Shock Trooper sur Neo Geo. Histoire de finir sur un feu d'artifice de pixels, sans jouer avec les mots, Shock Trooper est une véritable tuerie. Ce digne descendant d'Ikari Warrior ou de Merx de Capcom est dans la lignée des Walk Along Shooter, que l'on pourrait traduire par « marche et tire sur tout ce qui bouge ». Le but du jeu est de délivrer la petite amie du héros qui a été enlevée par un vilain méchant qui, en plus de cela, veut obliger le grand-papa de la fille kidnappée à produire une drogue pour rendre les soldats ennemis invincibles. Mais avant de prendre les commandes de l'un des 8 combattants, une explication des commandes s'impose. Une fois renseigné, il ne reste plus qu'à choisir le mode de jeu. Lonely Wolf, si vous voulez contrôler un seul personnage durant toute la partie, ou bien Team Battle, vous permet de choisir 3 guerriers parmi les 8 qui sont proposés. Ce dernier mode est intéressant si vous aimez varier les styles et faire un petit peu de stratégie, comme par exemple, utiliser ceux qui ont une plus grosse puissance de feu pour les boss de fin de niveau. Comme dans la plupart des jeux Neo Geo, les personnages sont très charismatiques. Chacun d'eux possède un couteau, pour le hack and slash, une arme de base propre à chaque, et bien entendu, un lot d'une dizaine de bombes, là aussi avec des effets très variés. Une fois les 3 mercenaires sélectionnés, vous aurez accès à une carte où il faudra choisir un chemin qui mène au chef ennemi. Comme vous pouvez le voir, l'action ne s'arrête jamais. Les ennemis sortent de partout, que ce soit à pied, par voie aérienne ou dans des véhicules blindés. Heureusement, il est possible d'amplifier sa puissance de feu. Vous trouverez régulièrement des mitrailleuses à double tir, des lance-roquettes, des lance-flammes, pas très pratiques mais marrants à utiliser, et bien d'autres armes de gros calibre. Côté son, c'est du pur bonheur. Les musiques sont rythmées et les bruitages collent bien à l'ambiance du jeu. Les graphismes sont de toute beauté. Pas de doute là-dessus, nous sommes bien sur Neo Geo. Malgré un style de jeu archi répandu, le développeur Sorus nous a concocté une petite merveille du genre. Shock Trooper est de l'arcade pure et on ne s'ennuie jamais. De plus, les parties ne se ressemblent pas toutes. À la fin du troisième niveau, il est possible de changer de chemin, ce qui fait même varier l'histoire du jeu. Avec des graphismes sublimes, une maniabilité irréprochable, la possibilité de jouer à deux en même temps, une durée de vie plus longue que la normale pour ce genre de jeu, un grand choix de personnages, Shock Trooper est un hit d'arcade pur et dur pour les accros des jeux d'action. Final Match Tennis datant de 1991 est, comme son nom l'indique, une simulation de tennis 100% nippon qui tourne sur PC Engine. Ce jeu a la réputation d'avoir l'un des meilleurs gameplay lors de sa sortie. Rythme des échanges dynamique et technicité presque irréprochable. La maniabilité super précise vous permettra d'effectuer la plupart des coups. Passing shot, volley, lob, smash, coup droit, amorti, etc. La prise en main demande un petit coup d'adaptation, mais un mode d'entraînement est disponible, complètement paramétrable en fonction du type de coup que vous voulez travailler. D'ailleurs, un drôle de robot se chargera de vous envoyer les balles lors de votre échauffement. De plus, l'intelligence artificielle y joue un très grand rôle. Chaque tennisman possède son propre style de jeu avec sa force et ses faiblesses. La légende raconte que chaque avatar est une inspiration de joueurs réels de l'époque avec des noms modifiés comme Rendolou ou encore Luconte qui sont respectivement Ivan Lendl et Henri Lecomte. Mais là où vous vous éclaterez le plus, c'est en invitant quelques sportifs du dimanche autour de votre console pour des parties en double à 4 joueurs simultanément. Le mode de jeu permet jusqu'à 9 configurations d'équipe pour des matchs en simple ou en double. Si on devait trouver quelques points négatifs au jeu, car nul n'est parfait, on pourrait dire en chipotant un peu que les tennismen ont une posture un peu raide et que les bruitages sont plus que médiocres. Malgré ses petits inconvénients, Final Match Tennis est un grand jeu de sport qui a connu un énorme succès en Europe, à la grande surprise de l'équipe de développement d'Human, qui ne savait même pas que leur jeu fut distribué en dehors du Japon. Big One Radio. Un an après Pop and Twin Bee, Konami nous a concocté une suite sur Super Famicom avec un jeu de plateforme rapide intitulé Twin Bee Rainbow Bell Adventure en 1994. Après avoir reçu un message de détresse de la princesse Melora, il vous faudra explorer les 33 niveaux que compte le jeu avec l'aide de Twin Bee, Win Bee et, accrochez-vous bien, Gwyn Bee. Chacun de ces personnages ont leurs propres particularités, comme l'agilité dans les sauts ou la rapidité au tir. La maniabilité des billes demande un petit temps d'adaptation, mais une fois maîtrisée, vous pouvez parfaitement effectuer toutes sortes d'attaques ou de déplacements à grande vitesse. La progression de l'aventure s'effectue par l'intermédiaire d'une carte qui se dévoile au fur et à mesure des niveaux terminés. Il est aussi possible de choisir une autre direction sur cette même carte, ce qui rend la durée de vie de la cartouche un peu plus longue. Les graphismes tapent à l'œil sont de toute beauté. Les couleurs sont vives et ressemblent à des bonbons acidulés. Les musiques sont agréables et les thèmes sont variés, de très bonne qualité même. Twin Bee Rainbow Bells Adventure est un bon soft dans un esprit doux et enfantin. D'ailleurs, ce titre visait essentiellement les jeunes enfants japonais avec un niveau de difficulté moyen. C'est le genre de titre à faire découvrir aux plus jeunes d'entre nous et pourquoi pas les initier au rétro gaming en général. Okutonoken sur Mega Drive est un jeu de baston à scrolling horizontal qui reprend la deuxième partie de la série animée où Bart et Lynn sont adultes. Vous incarnez Kenshiro, plus connu sous le nom de Ken, et vous devez chasser les armées de l'empereur. On peut choisir le niveau par lequel on veut commencer, selon l'endroit où l'on se situe sur la carte. Le jeu en lui-même est très classique. On avance tout en dégommant les ennemis sur son passage. Mais il est vrai que voir les ennemis frappés par Kenshiro exploser dans une gerbe de sang, surtout quand on est un fan de la série comme Damien, est assez jouissif. Bénéficiant de graphismes soignés et de sprites de bonne taille, ce jeu est d'un niveau de difficulté quand même assez élevé et s'adresse donc essentiellement aux fans de l'homme aux 7 cicatrices. Cette version Mega Drive japonaise reste l'une des meilleures adaptations de l'anime. Et avec juste une vie pour finir le jeu, croyez-moi, c'est vraiment très très difficile. Malheureusement, la version américaine, et donc européenne, baptisée Last Battle, sera outrageusement censurée. Fini les gerbes de sang, donc à éviter. De plus, les noms des personnages ont été remplacés, et même les couleurs des boss sont modifiées. Un vrai scandale. Alors si vous êtes un fanat de Ken le survivant, Okutonoken qui était diffusé, je vous le rappelle, au Club Dorothée le mercredi après-midi, c'est définitivement la version japonaise qu'il faudra essayer. Il y a des jeux dont on se souvient toute sa vie. Même avec un principe fort simple, certains avaient un je ne sais quoi de marquant et surtout d'émouvant. C'est le Kerouac Bog sur Intellivision, sorti en 1982, aussi connu sous le nom de Frog and Fly sur Atari 2600. Ici, deux grenouilles compétitionnent pour celle qui engloutira le plus d'insectes volants au-dessus de leur nénuphar. Chaque insecte mangé rapporte des points, et plus ces derniers sont petits et rapides, plus leur valeur est grande. Le jeu comporte deux modes. Le premier est somme toute classique, vous devez sauter d'un nénuphar à l'autre sans risquer de tomber dans l'eau car la trajectoire est toujours la même. Il faut juste donner un bon coup de langue au bon moment. Et au bout d'un certain moment, épuisés par leur journée, nos deux batraciens prendront un repos bien mérité. Quant au deuxième mode de jeu qui se déroule de nuit, vous avez jusqu'à un coucher de lune, entre guillemets, pour avaler le maximum d'insectes possible. Sauf que là, c'est à vous de bien calculer les sauts, sinon c'est la baignade assurée. Rigolade garantie, surtout à deux joueurs. Frogbog était un excellent jeu à l'époque, et il éveillera un grand moment de nostalgie à tous ceux qui y ont déjà joué. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez essayer une version plus moderne et le fun sera toujours au rendez-vous. Voici un test qui n'a jamais été diffusé, Hang-On sur Master System ou Sega Mark III pour la version japonaise. Ceux ou celles qui ont eu la chance d'avoir cette console doivent obligatoirement se souvenir de cette simulation de moto. Ce jeu était vendu directement avec la console sous forme de cartes. Par la suite, on pouvait le trouver sur support cartouche compilé avec Astro Warrior ou Safari Hunt, des mots qui faisaient carrément rêver à l'époque. Hang-On est la conversion du célèbre jeu d'arcade de Yu Suzuki, apparu dans les salles aux alentours de 1985. Il fallait chevaucher habilement une moto et se pencher à gauche ou à droite pour la faire tourner. Évidemment, sur Master System, le côté simulation est beaucoup moins réaliste avec un joypad à la place du guidon, mais tout de même, cela reste honorable si l'on resitue tout ça dans le contexte de l'époque. Jungle Hunt sur ColecoVision, sorti en 1983 et développé par Taito, est un jeu où vous incarnez un chasseur spécialisé dans les safaris qui doit retrouver sa compagne Pénélope, sauvagement capturée par des cannibales. Pour cela, il faudra se balancer de liane en liane comme un certain Tarzan, faire la traversée d'une rivière infestée de crocodiles en prenant soin de reprendre de l'oxygène, et pour finir, vous devez éviter de vous prendre en pleine face des espèces de boulets sortis de je ne sais où en calculant bien la vitesse et les sauts du héros. Une fois tout cela traversé, il ne reste plus, entre guillemets, qu'à sauter par-dessus les cannibales. Et là, croyez-moi, ce n'est pas une mince affaire. Le gameplay demande de nombreux sauts stratégiques. Et comme souvent dans certains jeux ColecoVision, il se répète, mais avec une difficulté accrue lorsque vous aurez fini la partie. Jungle Hunt est un jeu très agréable à jouer. Certes, on en fait vite le tour, mais certains passages restent inoubliables. Certainement l'une des productions les plus marrantes et hors normes de la ludothèque de la PC Engine, Photograph Boy ou Gekisha Boy fait partie d'un genre que l'on pourrait appeler Flash and Jump. Le principe est fort simple, il vous faudra, appareil à la main, photographier un maximum de sujets intéressants tout en évitant les objets rouges qui vous seront balancés. Bien entendu, plus vos clichés sont impressionnants et rigolos, plus ils rapportent des points et des pellicules photos. Celles-ci seront indispensables pour espérer aller loin dans chaque tableau, sinon le stage s'arrête. Et si malheureusement vous n'avez pas un certain nombre de points, votre patron vous fera recommencer direct dès le début. Eh oui, en 1992, notre Gekisha n'avait pas d'appareil photo numérique, ce qui aurait rendu le jeu beaucoup trop simple. Il suffirait de flasher tout ce qui bouge sans se soucier de la pellicule. Le gameplay demande un petit temps d'adaptation, car vous dirigez le viseur de l'appareil ainsi que le personnage en même temps, le premier se déplaçant plus vite que l'autre. Une fois que la maniabilité est acquise et que l'on a bien assimilé quels sont les clichés à ne pas louper pour chaque niveau, il suffit de les mémoriser vu que ceci se déroule toujours de la même façon. Alors si vous êtes prêt à flasher tout un tas de trucs chelous et si ce jeu suscite votre curiosité ou même des souvenirs, on vous conseille fortement ce Photograph Boy dont l'originalité en fait un incontournable sur ce système. Encore des séquences vidéo inédites des derniers niveaux du jeu d'arcade Hook, édité par Irem et chroniqué il n'y a pas si longtemps que ça sur le 7e épisode de Rétrovision pour ne pas le nommer. Ce beat'em up vous met dans la peau de Peter Pan et les garçons perdus, partis à la rescousse de ses enfants enlevés par le capitaine Crochet. C'est déjà la fin de la 3e saison de Rétrovision avec un épisode un peu plus long que d'habitude et j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à cette émission qui a vu le jour le 15 septembre 2007, 3 ans déjà. Mais je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais quand on est dans le rétro, on a l'impression que le temps passe beaucoup moins vite. Pour démarrer en force la 4e saison, on se donne rendez-vous avec le hors-série numéro 5 consacré à l'Amiga. Et cette fois-ci, c'est promis, il n'y aura pas de retard. D'ici là, à très bientôt pour de nouvelles aventures pixelisées.